إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، le repentir. Le repentir, c'est un sujet qu'on a, un titre qu'on a beaucoup entendu, que ce soit dans les conférences, les cassettes, ou également dans les livres. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur le sujet. Donc, d'après moi, ce ne sont pas les informations au sujet du repentir qui manque, mais s'il y a quelque chose qui manque, c'est la pratique. La plupart d'entre vous, je suis sûr, si je vous demande les conditions du repentir, etc., vous allez me les citer. Mais est-ce qu'on pense toujours à les mettre en pratique? Qui de nous, lorsqu'il commet un péché, pense à mettre en application ces conditions et à faire ce qu'on appelle le tawba, donc le repentir? Là, peut-être qu'il y en a beaucoup moins qui les mettent en application. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, ce sont quelques points qui vont faire office de rappel, Inch'Allah, pour moi-même et pour mes frères ici présents. Certains points, peut-être, qui sont un peu plus méconnus par rapport à At-Tawba. Le premier de ces points, c'est que At-Tawba n'est pas quelque chose de... En gros, n'est pas quelque chose de surérogatoire par rapport auquel on a le choix. At-Tawba, beaucoup de textes impliquent l'obligation de se repentir. Et parmi ces textes, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Donc repentez-vous à Allah Azza wa Jal tous, repentez-vous à Allah Azza wa Jal. Ça c'est le premier verset, ou bien sûr ici il y a l'impératif. Allah Azza wa Jal a utilisé l'impératif وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Le deuxième verset où Allah Azza wa Jal dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah Azzawajal d'un repentir sincère, d'un repentir véridique. Donc ça c'est, ce sont deux parmi les versets du Coran qui impliquent que le repentir doit se faire directement. Donc non seulement qu'il est obligatoire, et comme on va le voir maintenant aussi, qu'il est obligatoire directement. Et Shaitan a ouvert la porte à beaucoup d'entre nos frères, à beaucoup d'entre nous, en nous laissant croire que Tawba, on a le temps. C'est comme on dit un wajib muwassa, on a le temps de le faire. Si on le fait pas aujourd'hui, on le fera demain ou après-demain. Et puis après on oublie. Et ce sont les péchés pour lesquels parfois on ne se repent pas. Donc, comme on dit aussi nos savants, rahimahumullah, Tawbatu wajibatun ala al-fawr. Donc le repentir est obligatoire directement. Directement sans le postposer, sans le reporter à une période ultérieure. Donc ça c'est un deuxième point. Et comme on dit les savants, ils ont dit, certains lorsqu'ils leur disent, ou lorsqu'on entend ce genre de paroles, je vais me repentir par exemple demain, ou après-demain, ou dans un futur proche. Ils ont dit, est-ce que demain il est en ta possession? Est-ce que tu es sûr que tu le possèdes? Est-ce qu'il est en ta possession? Bien sûr, la réponse est non. Qui de nous possède son lendemain? Pour dire, je serai là et je vais faire telle ou telle chose. Donc ça, c'est la réponse qu'ont apporté les savants se basant bien sûr sur certains versets, comme le verset où Allah dit « وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ هَذَا ». Aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain, ce qui va se passer pour elle demain. « وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ هَذَا ». مَا تَكْسِبُ هَذَا. Ça, ce sont deux points importants par rapport à At-Tawba. Et At-Tawba, les savants également ont dit sur At-Tawba que At-Tawba dans son sens large, c'est le fait de abandonner ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas de manière extérieure, donc des actions extérieures, des actes extérieurs et aussi des actes du cœur, des actes intérieurs, et de revenir, de mettre en pratique ce qu'Allah Azza wa Jal aime de manière intérieure et extérieure. Donc nos savants ont dit que At-Tawba dans sa signification plus globale, c'est l'islam, c'est la religion de manière générale. At-Tawba, dans sa signification globale,
implique de délaisser tout ce qu'Allah n'aime pas, de manière intérieure, les actes intérieurs ou extérieurs, et de revenir, de mettre en pratique ce qu'Allah aime, d'appliquer ce qu'Allah aime, de manière intérieure ou extérieure. Et c'est pour cela que les savants ont dit également que se repentir des péchés, il y a aussi un autre repentir, qui est celui de se repentir de l'abandon de certaines choses qui sont obligatoires, et à ce moment-là, le repentir de ces choses-là qu'on a abandonnées et qui étaient des obligations est obligatoire, et se repentir des actes surérogatoires qu'on n'a pas fait, de certains actes surérogatoires qu'on avait laissés. Mais par rapport à certains actes, on trouve par exemple beaucoup de gens qui se repentent par rapport à des péchés qu'ils ont commis. S'ils ont par exemple fait un vol ou parlé sur le dos de quelqu'un ou menti sur quelqu'un ou autre péché, la fornication, les idées, ils se repentent. Mais on trouve que beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils ont laissé abandonner quelque chose d'obligatoire, parfois ils n'ont pas ce même réflexe de se repentir. Certains, lorsqu'ils ont abandonné la prière ou lorsqu'ils ont abandonné même certaines autres obligations, n'ont pas toujours ce réflexe. Pourquoi ? Parce que le réflexe, parfois, le réflexe en eux est que le repentir est seulement obligatoire ou est pas seulement les péchés qu'on vient de commettre, les mauvaises choses qu'on vient de faire, mais les obligations qu'on a laissées, qu'on a abandonnées ou qu'on a négligées, à ce moment-là, il n'y a pas toujours ce réflexe de se repentir de cela. Également, un autre point, c'est le fait de se repentir des grands et des petits péchés. Parfois, on a tendance aussi à vouloir se repentir seulement des grands péchés, et on oublie les petits péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre la gravité des petits péchés dans plusieurs hadiths. Dans le hadith où il dit « Iyakum wa muhaqqarat al-dunub », il dit « Prenez garde aux péchés qui sont sous-estimés, qui sont négligés, les petits péchés qu'on sous-estime. Hein? Car ils peuvent prendre après l'apparence d'une montagne et nous pulvériser. Hein, les petits péchés, souvent, on a tendance à les négliger, à sous-estimer leur gravité. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, également disait, le munafiq, il voit ses péchés comme une mouche qui passe près de lui et il fait comme ceci avec sa main, pour qu'elle parte. Et tandis que le croyant, il voit ses péchés comme une montagne qui est prête à s'écrouler sur lui, à s'effondrer sur lui. Il voit ses péchés comme telle une montagne, pareille à une montagne qui est prête à s'écrouler sur lui et à le pulvériser. Donc on voit ici la différence. Et nos savants, rahimahoumallah, ont également cité que il y a certains indices ou certains états qui peuvent rendre les petits péchés, qui peuvent les faire devenir des grands péchés. Par exemple, quels sont ces états? Le fait de sous-estimer ces petits péchés. Le fait de ne pas leur donner d'importance. Le fait de ne pas leur donner d'importance, par exemple, ça, c'est un péché en lui-même. La personne qui dit, ouais, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est des petits péchés, c'est pas un problème, hein, c'est pas pour ça que je vais rentrer en enfer. Donc, pourquoi? Parce que ça montre bien sûr un manque de crainte d'Allah Azzawajal dans son cœur. Et c'est pour ça que les savants ont dit, la tanzuru, il a siralizem, voilà qu'il nous ouvre, il a aizami, elle a dit à Saïta. Ils ont dit, ne regarde pas la petitesse des péchés, mais regarde l'énormité de celui que tu as désobéi. Mais ne regarde pas la petitesse des péchés, mais regarde plutôt l'immensité de celui à qui tu as désobéi, Allah Azza wa Jal. Donc, ça c'est la première chose, c'est de sous-estimer ces petits péchés, de ne pas leur donner d'importance. La deuxième chose qui peut rendre les petits péchés beaucoup plus graves, jusqu'à parfois les faire devenir de grands péchés, c'est le fait d'être constant, de ne pas les abandonner et de persister à commettre ces petits péchés. C'est pour ça que les savants ont dit la kabira ma istighfar wa la saghira ma israr. Ils ont dit il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés avec un repentir sincère, c'est-à-dire que le repentir sincère l'efface, et il n'y a pas de petits péchés avec le fait de persister à commettre ces petits péchés. Bien sûr, ici, quand on dit persister, ça ne veut pas dire pour ça que si la personne, à un moment donc, commet ses petits péchés, et il se repent sincèrement de ses petits péchés, et qu'un jour, malgré tout, il retombe. Il est retombé, donc il a ferme intention de ne plus jamais retomber dans ce péché, mais il a glissé, il a trébuché, il est retombé encore une fois. À ce moment-là, bien sûr, ça, le repentir est de nouveau ouvert à lui, et mais on parle de celui qui persiste sur ses péchés de manière négligente, hein, celui qui persiste donc sur ses petits péchés de manière continuelle et négligente, sans se repentir sincèrement de ses petits péchés. Parce que ici, certains gens donc ont compris que s'ils se repentissent d'un péché, et d'un petit péché ou autre, et ensuite ils retombent dans ce péché, en s'étant repenti sincèrement du premier, ils se disent, ça y est, ici mon repentir, par exemple, n'est plus valable. Non. L'être humain tombe, et il va trébucher encore, et il se dit qu'il tombe plusieurs fois dans ce même péché. Toujours, après, il refait un repentir sincère, et il a l'intention ferme de ne plus jamais commencer sur ce péché. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Kullu bani Adam khatta, tous les fils d'Adam, toute la progéniture d'Adam, font énormément de fautes. Khatta, ils font beaucoup d'erreurs, de péchés. Wakhayru khatta'in, at-tawwabun. Mais les meilleurs d'entre eux, de ceux qui font ces fautes, ce sont ceux qui se repentent de leurs péchés. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut avoir en tête, c'est que personne n'est à l'abri de péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, dit, si vous ne commettiez pas de péché, Allah azza wa jal vous aurez remplacé par une autre espèce qui font des péchés et qui ensuite se repentent à lui et pour qu'il leur pardonne. Car Allah azza wa jal aime le repentir. Il aime le repentir de ses serviteurs. C'est une adoration. Et c'est pour ça qu'un autre point, c'est que pour le repentir, il faut l'ikhlas. C'est une adoration. On ne se repentit pas pour échapper à la honte du péché devant les autres. Bien que, bien sûr, ce soit aussi demandé, là on est, en premier lieu dans le repentir, en lien de cette adoration, il faut se repentir pour Allah Azza wa Jal. Par crainte d'Allah Azza wa Jal et par espérance de sa miséricorde. Donc, l'ikhlas fi tawbah. Et Allah Azza wa Jal, pour montrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, pour montrer la joie que procure le repentir à Allah Azza wa Jal, lorsqu'un de ses serviteurs se repent, il dit dans un hadith, Allah Azza wa Jal, donc, aime, hein, lui fait plaisir qu'un de ses serviteurs se repente de pareille manière à ce que lorsqu'un d'entre vous perd, par exemple, sa monture s'égare. Imaginez, vous êtes dans un désert, dans une steppe, et que vous avez avec vous votre monture, avec toutes vos vivres, comme boisson, comme nourriture sur cette monture. Et ensuite, cette monture s'échappe, pendant que vous vous reposez. Bien sûr, vous n'allez rien trouver. La prochaine étape où vous allez trouver peut-être d'autres êtres humains à manger, peut-être à des centaines de kilomètres, c'est la mort à coup sûr. Et ensuite, le prophète Hassan décrit cela, il décrit cet homme qui ensuite se laisse aller à la mort. Il n'attend plus que la mort, car il n'a pas d'autre solution. Et, en attendant la mort, il s'endort, il s'insomme, et lorsqu'il se réveille, il retrouve sa monture à sa tête. Imaginez sa joie. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise, à ce moment-là, il dit, pour remercier Allah, il dit, Allahumma, anta abdi wa ana rabbuk. Il dit à Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Yani, il s'est trompé, mishita fil faraj. Tellement qu'il a été joyeux de retrouver sa monture, il s'est trompé. Hein, il a fait ce qu'on appelle un lapsus. Et donc Allah Azza wa Jal est aussi heureux de retrouver ses serviteurs qui font, qui se repentent et qui reviennent à lui que cet homme. On pourrait dire, nous, c'est vrai, on a retrouvé la vie avec cette monture qui est venue avec nos vivres. Mais regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que nous on représente pour Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que nous on représente? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous tous, les hommes, l'espèce humaine et les djinns, vous étiez sur un même plane, donc vous réunissiez, et que vous soyez tous, que tous, les djinns, les êtres humains, soient comme le plus pieux d'entre eux, donc tous ils sont comme le plus pieux d'entre eux, cela n'ajouterait rien au domaine d'Allah Azza wa Jal. Et au contraire, si tous les êtres humains et tous les djinns étaient, donc, les plus pervers, comme le plus pervers d'entre eux, cela ne diminue en rien du royaume d'Allah Azza wa Jal. Nous, on n'apporte pas quelque chose à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Al-Ghani. Allah est le riche par lui-même. Il n'a pas besoin de ses créatures, mais pour montrer son immense miséricorde, malgré cela, regardez la joie que lui procure le serviteur qui se repent et qui revient à lui. Donc, cela aussi, donc, montrer que c'est une adoration Et vous connaissez aussi l'autre hadith qui est très explicite en la matière. Le hadith où un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une mère qui donc abreuvait, qui allaitait son enfant. Et il a dit au compagnon qui était près de lui, il a dit, voyez-vous cette mère avec son enfant? Il dit, croyez-vous qu'elle serait capable de prendre son enfant et de le jeter dans le feu? Parce que vous savez que la mère, surtout son nourrisson, c'est, si vous prenez son nourrisson, c'est comme si vous la tuez elle-même ou pire. Il dit, croyez-vous qu'elle serait capable de jeter son nourrisson dans le feu? Bien sûr, les compagnons ne disent jamais. C'est une chose impossible. On pourrait tout lui demander, mais pas ça. Et ils l'ont dit pour Allah Azza wa Jal également. Allah Azza wa Jal est plus miséricordieux envers ses créatures que cette mère vis-à-vis de son enfant. Donc Allah Azza wa Jal, on ne lui apporte rien, on ne rajoute rien à sa richesse, à son domaine. Mais tout cela, c'est pour notre propre bien. Tout cela, l'envoi des messagers, la guider des livres célestes qu'il nous a révélés, ça c'est pour notre propre bien. Sinon, à lui, ça ne lui ajoute rien dans son royaume. Un autre point par rapport auquel souvent il y a une malcompréhension chez beaucoup de jeunes, et parfois ils tombent dans ce piège tendu par Shaitan, c'est le désespoir. Le désespoir de la miséricorde d'Allah. Il se dit, moi depuis je suis jeune, j'ai jamais rien fait de bon. J'ai fait que bêtise sur bêtise, et parfois j'en fais encore, je suis attiré par les bêtises. Comme si il n'a plus d'espoir, ou son espoir est très minime dans le fait de revenir à Allah Azza wa Jal. Et ça, bien sûr, c'est tout ce que Shaitan attend. Là, quand il s'est laissé aller à ça, Shaitan lui a remporté une victoire foudroyante. Et, bien sûr, cela est tout à fait démonté en pièces par le Coran et la Sunna, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit, لا تقنطوا من رحمة الله. C'est un ordre. لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله. Oh mes serviteurs qui avaient fait beaucoup de tort à vous-même, ne désespérez pas. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et dans la Sunna, vous connaissez tous le hadith très célèbre de celui qui a tué 99 âmes, 99 personnes innocentes. Et lorsqu'il a été voir un adorateur, vous savez, un ascète, quelqu'un qui se retire pour adorer Allah Azza wa Jal, il a été voir, il lui a dit, Helli min tawba. Il a dit que j'ai quand même une porte ouverte vers le repentir, alors que j'ai tué 99 personnes. Et ce habit, cet ascète, qui adorait Allah Azza wa Jal, mais qui n'avait pas de science, il lui a dit non. Soit tu as tué 99 personnes. Je ne vois pas pourquoi de repentir. C'est terminé. Et, déjà que cet homme avait le désespoir, il s'est dit, si c'est comme ça, j'ai quand même pas de repentir, et Allah, je vais compléter avec toi. Il l'a tué. Ça fait 200. Et 200. Et ensuite, il a été voir un savant, un alim, cette fois-ci. Et ça, bien sûr, dans ce hadith, il y a aussi une indication du mérite du savant par rapport à la fête. À celui qui adore Allah, qui fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, mais à la ghayri basira, sans science. Soit qu'il parle, soit qu'il n'a pas de science, c'est blâmable, soit qu'il savait adorer Allah à lui, mais qu'il a répondu à cet homme sans science. Ce qui est aussi un crime, de répondre aux gens sans science, de leur dire ce qu'on appelle des verdicts sans science, c'est un grave crime. Et quand il a été voir l'alim, le savant, il lui a dit, voilà, j'ai tué 100 âmes. Est-ce que il y a une possibilité de repentir pour moi? Et qu'est-ce que lui a dit ce savant? Il lui a dit, ma yahoulu baynaka baynatoub. Il a dit, quelle est la barrière? Qu'est-ce qui t'empêche? Quelle est la barrière entre toi et le repentir? Alhamdulillah, nous, dans l'islam, on n'a pas de confession ou de personne, l'imam à qui on va se repentir. Non. Le repentir se fait pour Allah Azza wa Jal. On n'a pas besoin d'un intermédiaire. Où que tu sois, dans la rue, dans ta chambre, seul, tu peux te repentir à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'aller à la mosquée, d'attendre que l'imam soit dans une petite pièce, de lui dire voilà, comme on le faisait à la confession, à l'église, et lui dire voilà, j'ai fait quelque chose que, non. C'est Allah Azza wa Jal. Et donc ce savant, c'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, qui pourrait se mettre entre toi et le repentir? Qui peut se mettre entre toi et Allah Azza wa Jal? Est-ce que quelqu'un peut faire qu'Allah ne t'écoute pas? Impossible. Est-ce que quelqu'un peut empêcher Allah de te pardonner? Non. Et d'ailleurs, c'est un grave crime de dire à quelqu'un, toi Allah ne te pardonnera pas. Dans un hadith, avant de compléter celui-ci, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte l'histoire de deux hommes qui sont passés dans Benou Israël, les fils d'Israël, la communauté donc qui nous ont précédés. Et un de ces deux hommes voyait toujours son frère en train de commettre des péchés. Et il le conseillait. Malgré ça, l'autre retombe chaque fois dans ses péchés. Et un jour, il en a eu assez. Il n'a pas patienté. Et il lui a dit, Wallahi, la yassirullahu lak. Il lui a dit, Wallah, toi, Allah ne va pas te pardonner. J'en ai assez. Chaque fois, je te conseille, tu retombes. Il dit, Wallah, toi, jamais Allah ne va te pardonner. Subhanallah, il a fait un grave crime. Qui peut dire, voilà, toi, Allah ne va pas te pardonner? Est-ce que quelqu'un possède à la connaissance du repentir ou ses limites à la miséricorde d'Allah Azzawajal? Wa fiat rahmatun kulla shay. Comme dit Allah Azzawajal, ça dans le Coran, sa miséricorde recouvre toute chose, est plus vaste que toute chose, plus large que toute chose. Donc, ici, il lui a dit, Allah, toi, Allah ne va jamais pardonner. Ensuite, qu'a dit Allah Azzawajal? Il a dit, qui s'est permis de réduire ma miséricorde et de se l'accaparer et de dire que je ne la donnerai pas? Qui s'est permis cela? Et il a dit témoigner, donc aux anges, il a dit témoigner que j'ai déjà pardonné à l'autre, celui qui commettait les péchés, et que celui-là, je ne lui pardonne pas. Celui qui s'est permis de dire à l'autre, toi, Allah ne me pardonnera pas. Il a dit, soyez témoin que j'ai pardonné à l'autre, mais à celui-là qui a osé dire que je ne pardonnerai pas, celui-là, je ne lui pardonne pas. Donc ici, c'est aussi un grave crime. Et la miséricorde d'Allah est plus vaste que toute chose. Pour revenir à notre hadith de celui qui a tué les 100 personnes, le savant lui a dit, bien sûr, il n'y a pas de barrière entre toi. Et-tawba. Mais ensuite, bien sûr, il y a indiqué Es-Sabab. Il y a indiqué Es-Sabab, et qui est une des branches qui découle d'une des conditions du repentir, comme on va le voir, qui est le fait de quitter le péché, de ne plus le commettre. Et on va voir de ce qui découle de là, c'est que parfois, pour pouvoir se décoller et se détacher du péché, il faut quitter le milieu ou les gens qui nous font sombrer dans ce péché. Ou l'atmosphère, l'ambiance qui nous fait tomber dans ce péché. Qu'est-ce qu'a dit ce savant? Il a dit, écoute, mais je vais te dire quelque chose pour que tu puisses vraiment te repentir. Il a dit, il y a une terre. Toi, tu viens d'une terre où il y a comme sous des gens mauvais. Il y a une autre terre là-bas où il y a des gens comme salihun. Il y a des gens de bien, un peuple de bien qui y vit. Ils vont t'aider à faire le khair. Et l'envoyer à cette terre. Et ensuite, la fin du hadith, vous savez qu'il est mort, donc sur la route, en se dirigeant vers ces personnes, vers ce peuple pieux, et les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se le sont disputés. Ils ont dit, il a tué 100 personnes. Il avait l'intention de se repentir sincèrement, et pour cela, pour concrétiser son repentir, d'aller vers ce peuple. Ça, donc les anges du bien ont dit, voilà, ça prouve son repentir. Mais les anges de châtiment ont dit non. Il est encore plus proche de la terre. Et donc Allah Azza wa Jal, ils ont dit, on va voir, est-ce qu'on va le prendre nous ou vous? Les anges de la miséricorde, les anges du châtiment. Ils ont dit, on va voir, de quelle terre est-il la plus proche? Est-ce la terre du châtiment de laquelle il venait, la terre des gens du mal, où il a commis ses actions, ou la terre du bien? Et selon sa proximité, s'il est plus proche de l'ancienne, les anges du châtiment le prennent. S'il est plus proche de la nouvelle, les anges du pardon et de la miséricorde vont le prendre. Et donc, dans le hadith, il est dit qu'Allah Azza wa Jal a étendu, si on veut, la terre pour que on le compte, pour qu'il soit plus proche de la terre, donc de ceux, des gens du bien, et donc pour que les anges de la miséricorde le prennent. Alors qu'en vérité, il était encore plus proche de la terre du châtiment, mais la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est plus vaste que toute chose. Et donc ce sont les anges de la miséricorde qui l'ont pris avec. Donc ça c'est par rapport à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, quelles sont les conditions du repentir? Ça je crois que là, beaucoup d'entre vous ont déjà lu quelles étaient les conditions du repentir. La première de ces conditions, elle est là en Islam, le fait comme on a dit de se détacher, d'arrêter de commettre le péché. Et comme on a dit, cela doit parfois avoir comme implication qu'on se détache d'un certain milieu, parfois même de ses anciennes connaissances. Pourquoi? Parce que on sait que rufqa sayya, la majorité des jeunes, ce qui les fait sombrer, c'est la mauvaise compagnie. La majorité des jeunes, si on les prend un par un, ils connaissent le bien et ils ont envie de le faire. Mais l'ambiance, hein, il faut montrer qu'on est dur, il faut montrer qu'on est fort. Et malheureusement, on est dans une société, le gentil, c'est le bouffon, hein, c'est le rigolo, on se moque de lui. Celui qui étudie bien, celui qui fait du bien, pour certains, il est considéré comme un rigolo. Mais celui qui fait les 400 coups, ça c'est un vrai, hein, malheureusement, dans leur mauvaise conception. Donc, parfois, il faut se détacher d'un groupe de gens et d'une atmosphère qui fait sombrer, donc dans le mal, qui attire vers le mal et qui pousse la personne, qui l'encourage à faire du mal. Et ne pas non plus tomber dans un piège dans lequel beaucoup sont tombés. Qu'est-ce que Shaitan leur insuffle? Il dit, voilà, toi maintenant, tu t'es détaché de ce péché, tu t'acquittes de la prière, etc. Tu es devenu, alhamdoulilah, sur la voie droite. Et elle dit, retourne chez eux et tu vas leur parler un petit peu. Hein? Mais, consomme-moi toi, ça fait 2-3 semaines, un mois. Ta foi, elle est vraiment encore très, hein, comme on dit, instable. Hein, tu n'as pas encore beaucoup de science, tu ne connais pas encore bien Allah Azzawajal, le fait que ta foi est encore faible. Et, eux, leur bêtise et la voix de Shaitan, ils la connaissent bien. Ça fait des années qu'ils sont dans, et Shaitan, il les encourage, il leur apporte, hein, il leur apporte des, c'est lui qui les sponsorise. Tout est facile pour eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu dis, je vais leur parler, mais eux, et Shaitan, parfois par leur intermédiaire, qui te parle. Et tu retombes dans, comme c'est encore très faible. C'est plus toi, quand tu ressors, quand tu gardes ton cœur, au contraire, c'est plus toi qui as été attiré vers ce mal. C'est toi, tu leur as parlé. Pourquoi? Parce que non seulement, tu n'as pas de science pour leur parler, ta foi est encore faible, et comme je dis, eux, ils sont bien ancrés depuis des années dans cette bêtise, et en plus, toi, tu penches encore, tu es encore un penchant vers ces choses-là, vu ta faiblesse de foi et que tu manques de connaissances de ça. Donc, ne pas tomber dans ce piège-là. Ils vont nous-mêmes se séparer. Ce n'est pas pour ça que, non plus comme certains, il faut renier, par exemple, tous les gens qu'on connaissait, etc. Non. Il y a une différence entre essayer justement de garder un certain contact quand on les voit dans en rue, etc., pour justement essayer de garder ces relations pour un jour, leur parler. Il ne faut pas non plus s'enorgueillir et dire, voilà, moi maintenant, je suis devenu bien, j'ai laissé 3-4 poils, hop, les autres, on les dénigre, c'est tous des... Alors que toi, il y a un mois, tu étais pire que eux. Non, c'est pas ça qui est demandé, mais ne pas aller dans les assemblées ou dans les endroits où tu sais que tu vas être attiré par ce mal. Même, hein, certains contacts, par téléphone ou dans la rue ou autre, sauf bien sûr au cas où ce contact nuit bien sûr à la personne, alors c'est mieux qu'il coupe tout à fait donc les liens, en attendant au moins avec cette personne qui l'attire toujours vers le mal. Donc la première condition, à l'irqla en izan. La deuxième, al-nadam. Al-nadam, qui est le regret. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-nadam utawba. Il dit, le regret, c'est le repentir. Pour montrer l'importance du regret, elle dit, c'est une des principales constituantes du repentir. Regretter ce qu'on a fait. Et ici, pour regretter ce qu'on a fait, il faut nettoyer parfois son cœur. Parce que celui dont le cœur est noir, parfois il voit le munkar comme un ma'rouf, il voit le mal comme un bien, ou il ne ressent pas ce dégoût du mal. Pourquoi? Parce que son cœur est encore entaché de saleté. Mais à force que il connaît pourquoi Allah a rendu cette chose illicite, interdite, et pourquoi celle-ci obligatoire, il commence à connaître plus Allah et à purifier son âme avec l'adoration et l'éloignement du mal, de plus en plus, il commence à avoir ce dégoût du mal. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, le regret de ce qu'il a commis comme mal est plus profond. Donc, le regret de ce qu'on a commis comme mal. Et un regret, bien sûr, pour Allah Azza wa Jal. Un regret pour Allah Azza wa Jal. La troisième condition, c'est l'azm. Al-adam il-aouf, fil-dhanb. Le fait d'avoir une ferme résolution de ne plus jamais retomber dans ce péché. Comme on a dit tout à l'heure, ne pas confondre avec le fait qu'on ne va plus jamais y retomber, non. Mais, parmi les conditions de repentir, la ferme résolution, maintenant on a une ferme résolution sincère qu'on ne va plus retomber dans ce péché, qu'on ne veut plus y retomber. Mais bien sûr, un jour ou l'autre, on peut glisser. Donc ça, c'est la troisième condition. Et ça, c'est une des conditions, comme on dit, pardon, c'est les trois conditions précitées, ce sont les conditions du repentir entre un manquement, entre la personne et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, entre Allah Azza wa Jalla, lui et Allah Azza wa Jalla. Par exemple, un mal qu'il a commis, il a bu par exemple de l'alcool, ou il a fait la fornication, ou il a abandonné une prière, ou autre, ça c'est entre lui et Allah Azza wa Jalla. Et en gros, hein. Walakin, les savants nous ont rajouté, en tirant des textes, une quatrième condition, qui est fi haqq al-adamiyin, donc en ce qui a trait aux autres êtres humains. Quand ce mal a eu aussi un effet sur d'autres êtres humains, comme le fait d'avoir menti sur l'encontre d'un tel, d'avoir parlé sur son dol riba ou le kadib, ou encore par exemple le qatf, hein, d'avoir excusé quelqu'un, par exemple, de zina, waliyadu billah, ou de lui avoir volé, subtiliser quelque chose, ou d'avoir caché quelque chose à lui sans lui avoir dit, etc. Donc tout ça, c'est se repentir aussi implique qu'on se défasse de ce droit qu'on a par rapport, ou de ce lien qu'on a encore avec cette autre personne. Parce que dans les premiers cas, c'est un mal qui ne me dépasse pas. C'est un mal entre que je me suis fait à moi-même. Et par rapport à Allah Azza wa Jal, donc se repentir sera entre moi et Allah Azza wa Jal. Mais, en plus de ces trois conditions précitées, si c'est un mal qui a été, donc qui est tombé sur une autre personne que moi, je dois aussi me défaire de ce mal. Alors ici, il y a plusieurs manières. La manière, c'est que normalement, lorsque j'ai volé quelque chose à quelqu'un, ou j'ai cassé quelque chose, je dois réparer ce mal, en lui remettant cette chose, ou en réparant ce que j'ai cassé, ou autre. Ou par exemple, il m'avait prêté quelque chose, je ne lui ai jamais remis, ou autre. Donc ça, on doit réparer cela en lui remettant cette chose-là. Bien sûr, ici, les savants ont dit, dans certains cas, ou ça s'applique aussi quand on a parlé sur le dos de quelqu'un. Hein? Lorsqu'on a parlé sur le dos de quelqu'un, mais dans certains cas, si je vais me présenter à cette personne et que je lui dis, voilà, un jour, par exemple, j'étais volé cette chose, ou j'ai cassé, c'est moi qui avais cassé, par exemple, son truc, tu l'as jamais su, il se peut que, comment dire, ça entraîne un plus grand inconvénient. Parce que peut-être cette personne va mal le prendre. Ah, c'est toi qui avais ça. Peut-être que ça va entraîner une plus grande dispute ou un inconvénient plus grand. Donc là, les savants ont dit, dans ces cas-là, c'est permis de remettre à la personne sans mettre de nom ou par l'intermédiaire de quelqu'un. Hein? Soit par une lettre que tu remets dans sa boîte ou par l'intermédiaire de quelqu'un sans dire de nom pour qu'il ne se doute pas et ne sache pas de qui il s'agit. Parce que sinon, ça va créer des problèmes encore plus grands. Même chose avec le mensonge sur quelqu'un ou parler sur le dos de quelqu'un. Ici, bien sûr, tu ne sais pas lui remettre quelque chose, mais tu dois te défaire de cela en allant t'excuser auprès de lui. L'istihlal, comme on dit ça, c'est que tu te défasses de ce péché en demandant l'excuse, en demandant pardon à cette personne. Tu lui dis, voilà, un jour, etc., par faiblesse ou autre, j'ai parlé sur ton dos, où j'ai menti sur toi, excuse-moi de ce que j'ai fait ou autre. Et à ce moment-là, s'il nous excuse, hein, et aussi, certains savants ont dit que après ça, il s'agit de le citer en bien dans les endroits ou dans les assemblées où je l'ai cité en mal. Par exemple, si chaque fois j'ai la cage, je suis là, après, pour que le repentir soit sincère, on va s'excuser, et aussi après, on cite cette personne en bien dans parmi les gens auxquels je l'ai cité en mal. Donc en disant, ce que j'ai dit sur un tel, c'était faux, je me suis trompé, au contraire, c'est quelqu'un de bien, etc., c'est moi qui avais tort, et cadre et cadre. Donc ça c'est par rapport aussi à Hukuk, ou l'Adamim, donc par rapport aux droits des autres, et c'est la quatrième condition donc qui a trait à cela. Il y a bien sûr encore certains autres points à débattre par rapport à cela, Mais, Inch'Allah, je crois qu'on a cité le principal. Et s'il y a certaines questions sur le sujet, j'insiste, Inch'Allah, on essaiera d'y répondre. Donc, Inch'Allah, on laisse la voix aux frères s'ils ont certaines questions à poser sur le sujet. J'insiste bien, ne pas sortir du sujet. Et bien sûr, c'était plus un rappel, car il y a, comme j'ai dit, beaucoup de livres et beaucoup de cassettes qui ont déjà été faites sur le repentir, plus détaillées. Donc, Inch'Allah, celui aussi qui veut avoir plus de détails sur ce sujet, il y a par exemple certains bons livres qui ont été écrits, comme Le repentir sincère de Cheikh Salim al-Hilali. Il y a aussi Le retour à Dieu de Abu Amin Abil al-Philips, qui sont des bons ouvrages là-dedans. Et aussi notre frère Mustafa Kastik, qui a aussi une conférence à ce sujet. Donc, Inch'Allah, ceux qui veulent aussi étudier ce sujet plus en profondeur. Mais encore une fois, j'insiste sur la pratique. Et beaucoup d'entre nous, dans beaucoup de sujets, nous connaissons beaucoup de choses, mais malheureusement, où le bas blesse, comme on dit, c'est souvent dans la pratique de ces choses. Et si nous mettions en pratique un quart ou une moitié de ce que nous connaissions, les choses changeraient énormément. Wallah. Amen. Ça, c'est ce que certains savants ont dit par rapport au tawba, par rapport aux choses surrogatoires. Par exemple, le fait d'abandonner de manière constante toutes les prières surrogatoires ou autres. Certains ont dit qu'à ce moment-là, tawba est surrogatoire aussi par rapport à ces choses-là. Donc, d'abandonner systématiquement toutes les prières surrogatoires ou autres. Donc, le frère se pose une bonne question. Est-ce qu'on doit se repentir sur la pensée? On a un hadith, bien sûr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah ne tient pas compte, ne tient pas pour responsable la personne par rapport à ce qu'on appelle hadith al-nafs. Donc, ma lam yatakallamu bih ou ya'malu bih. Ma lam ya'malu bih. Ma lam ya'mal bih. Donc, Allah azza wa jalla ne tient pas responsable la personne de ce qu'il a comme pensée intérieure, par exemple insufflation de mal, tant qu'il ne les met pas en pratique. Donc ça, c'est la réponse à cette question. Bien sûr, il faut que la personne combatte, ça c'est parmi les actions du cœur, qu'il combatte, qu'il n'aime pas cette pensée-là. Pas qu'il en soit satisfait. Par exemple, un qui se dit en lui-même, il dit, ouais, moi, si j'avais l'occasion, bah, j'aimerais bien faire tel ou tel coup, ou faire tel truc. Mais j'ai pas l'occasion, bah, zut, j'aimerais bien. Après, il est content avec ça, etc. Là, bien sûr, il n'espère que ça, il est content. Mais par exemple, quelqu'un, il a par exemple une insufflation de mal, et bon, il réalise, il dit, ah, oulubillah, etc. Tant qu'il ne met pas en application, il n'a rien pour cela. Il n'a pas de... Mais ici, on n'appellera pas ça repentir. On appellera ça yamin mujahada, donc le fait de combattre, d'éloigner ce genre de pensée, on appellera pas ça un repentir, parce que le repentir, il faut qu'il y ait eu un péché. Tu vois? Et si ce n'est pas un péché d'avoir ces insufflations, ce n'est pas un péché en tant que soi. Mais ce qui peut être un péché, c'est, comme on a dit, si la personne se complaît et demanderait qu'elle ait réalisé. Mais par exemple, il n'a pas pu à cause de quelque chose qui l'en a empêché, mais il aimerait bien réaliser ça, et il est content de ça. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui reçoit une insufflation comme ça et ensuite qu'il la combat, qu'il l'éloigne, il n'a pas commis de péché pour qu'on dise qu'il doit se repentir. Donc le frère demande, est-ce que il y a certains, est-ce que le repentir couvre tous les péchés ou est-ce qu'il y a certains péchés qui ne sont pas recouverts par at-tawba? Wallah, ce qui apparaît d'après les maigres connaissances que j'ai, ce que j'ai vu, c'est que le tawba recouvre tous les péchés. Et les savants se sont basés sur le verset Wallah zal inna Allah alay la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bon, et même ça c'est déjà bon par rapport à cela, et même le shirk, donc on sait qu'Allah azza wa jalla le pardonne également tant que la personne est vivante. Certains se sont basés sur le hadith que par rapport à al-mubtadi', par rapport à l'innovateur, qu'Allah azza wa jalla a voilé le repentir à celui qui fait la, donc le bid'ah, l'innovation jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Et il y a eu plusieurs explications de ce hadith, mais aussi donc on voit que même le bid'a, si la personne bien sûr il s'en repent, car le bid'a est inférieur à shirk. Car le bid'a est inférieur au péché du shirk, de l'association à Allah Azza wa Jalla. Donc tous les péchés, tant que bien sûr à, vous connaissez tous, donc quand le soleil va, se lever à l'Occident, ça c'est donc parmi les signes de la fin du temps, ou pour nous tous, donc quand l'âme est proche à, et vraiment c'est les derniers instants de la vie. Comme par exemple Fir'aoun, il s'est repenti à la fin. Il a dit, je crois maintenant au Seigneur de Moïse, de Moussa, mais cette tauba ne l'a plus, ne lui a été d'aucun bénéfice. Et les savants ont expliqué ça pourquoi. Parce qu'ils ont dit, nous, par rapport à quoi on est récompensé? On est récompensé par rapport à l'iman al-raïb. Parce que on craint Allah Azzawajal bil-raïb. En ne voyant pas les signes d'Allah Azzawajal. Mais lorsque, il a rarrarat nefs, la personne voit les anges et le malaïque. À ce moment-là, il a l'yaqim. Et il se repentit directement. Mais à ce moment-là, bien sûr, ce n'est plus un iman raïd, c'est iman mushahada. C'est un iman, comme on dit, mushahada. Donc, c'est un iman par la vision. Il voit cela. De même, lorsque il y a le soleil qui se lève à l'Occident, à ce moment-là, il n'y a plus de place au doute. Et tout le monde, toute la terre entière va. Mais à ce moment-là, bien sûr, ça n'est plus d'aucun bénéfice pour la personne. Car nous, ce qu'on est récompensé, c'est pour l'iman ou le ghaïb, pas iman mushahada, donc pas pour ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit, si tout le monde voyait Allah Azza wa Jal, ou voyait les signes, tangibles, les anges, etc., tout le monde va croire. Et à ce moment-là, plus personne, il n'y a plus de lieu de récompenser certains par rapport à d'autres. Donc ça, c'est comme cela que les savants ont expliqué le fait qu'il y a deux temps pour le repentir et passer ces deux temps-là, une par rapport au signe de la fin du monde et l'autre par rapport à la personne lors de sa mort. Donc par rapport à une sœur qui, donc apparemment, elle a fait la shahada, donc l'attestation que nul n'a le droit à l'adoration si ce n'est Allah Azzawajal, mais donc elle a un peu de négligence par rapport à la prière. Et par rapport aussi au hijab. Donc, par rapport à ça, bien sûr, il faut voir quelle est cette négligence. Si c'est une négligence, bon, qu'elle retarde un petit peu la prière jusqu'à sa dernière heure, ou que parfois elle rassemble, dort la seule sans raison ou autre, bon, c'est une chose. Il faut bien sûr arrêter de faire cela, et prier chaque prière à son heure. Si c'est par exemple, si cette négligence implique une négligence totale, c'est-à-dire qu'elle n'observe pas du tout les prières, à ce moment-là, bien sûr, c'est beaucoup plus grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est la prière. Et celui qui l'abandonne a d'ores et déjà mécru. Bien sûr, les savants, vous savez, sont en divergence par rapport à cela. Est-ce que c'est la mécréance majeure qui fait sortir la personne de l'islam ou non? Mais malgré tout, comme ils ont dit, la personne est au bord du gouffre. Celui qui abandonne la prière, il est au bord du gouffre, car c'est quelque chose, c'est le plus grand péché jamais commis, c'est l'abandon de la prière. C'est un plus grand péché que la fornication, que l'alcool ou que l'usure, abandonner la prière. C'est le plus grand péché après le shirk, c'est le fait d'abandonner la prière, donc c'est un péché très 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 grave. Et bien sûr, la personne, on craint pour sa foi. On craint réellement celui qui néglige la prière, donc pour sa foi. Par rapport au hijab aussi, le hijab a été institué pour le bien de la femme. Et non pas, c'est un droit et non pas un devoir. Allah a honoré la femme par le hijab et il l'a considérée comme une perle dans sa coquille, qui n'est pas laissée aux mains vides de tout un chacun. Donc il ne faut pas voir ça comme un devoir ou comme une charge imposée par la société ou par les hommes. Non, c'est Allah, d'abord c'est une adoration par rapport au Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et aussi également, c'est une honorification, un honneur pour la femme, qu'Allah Azza wa Jal la protège et ne la laisse pas donc entre les sales mains de tout un chacun, mais plutôt donc la préserve pour son foyer, pour son mari et ses enfants. Donc, si malgré le repentir, on retombe dans le péché, est-ce que mon repentir est accepté? Bien sûr, si on a dit, tant que les conditions du péché sont présentes, si la personne retombe par après dans le péché, par faiblesse ou son nefs l'a vaincu et il est retombé dedans, il y a toujours là, le repentir est toujours présent. Y a-t-il des signes qui attestent de l'accord du repentir? Bien sûr, il y a des signes qui attestent du fait que le repentir est sincère, on va dire, c'est qu'on voit la personne qui change de situation, qui change d'état. Si on le voyait lorsqu'il était dans un péché, dans un certain état, etc., de certaines années, que ce soit dans son vocabulaire, dans sa manière d'être, dans sa manière, par exemple, si on le voit après, à la mosquée, ou qu'il fait les prières, on voit qu'il a changé dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter, etc., tout ça sont des signes que, bien sûr, son repentir est, Inch'Allah, sincère. Mentir dans le but de ne pas créer une querelle, est un péché. Donc, dans le hadith, le prophète Hassan a permis donc de mentir pour réconcilier entre les gens. Pour réconcilier entre les gens. Maintenant, mentir dans le but de ne pas créer une querelle, wallah, est-ce que c'est considéré pour éviter une dispute, wallah, s'il faudrait demander donc à quelqu'un de plus savant. Est-ce que c'est permis ou non? Donc, pour ne pas créer une querelle, il faut peut-être voir selon aussi qu'est-ce que c'est que la chose. Pour ne pas créer une querelle, il faut voir aussi peut-être détailler la question. Va-t-on se repentir des péchés commis à autrui quand on a été possédé? Qu'est-ce qu'on entend ici par le repentir? C'est-à-dire que les savants ont dit le petit qui n'est pas encore responsable, ou la personne, même le mejnoun, qui est possédé ou quelqu'un qui est fou, je veux dire de naissance quoi, handicapé, mental, s'il casse quelque chose à autrui, ses tuteurs ou ses parents doivent repayer cette chose. Ou par exemple un jeune garçon aussi, il rentre par exemple dans un magasin et commence à casser des choses, ses responsables doivent repayer ces choses-là, réparer ces choses-là ou les payer. Mais bien sûr le péché, si tant qu'il est majnoun, comme vous connaissez le hadith, rufi al-qalam. Allah n'inscrit pas les péchés de trois, du petit jusqu'à ce qu'il devienne pubère, du mejloun hatta yasir, du fou, jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance, donc, et qu'il soit à nouveau sain d'esprit, et de celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Ça c'est par rapport au péché. Mais tout de même, ce n'est pas pour ça qu'il ne doit pas réparer les torts qu'il a commis ou ses proches, ceux qui sont ceux sous la responsabilité de qui il est, ou ses tuteurs, doivent bien sûr réparer les torts qu'il a commis, et bien sûr le procédé aussi, s'il casse des choses, ou etc. Donc, il doit réparer cela. Donc apparemment, il demande est-ce que la personne qui a fait une chose et qui regrette cela, et qui s'est repenti, est-ce qu'Allah le pardonne? Et bien sûr, comme on dit, Taïbou, Shabella Zendala, comme c'est venu, donc celui qui se repent, c'est comme celui qui n'a pas fait de péché, pour ce que ça efface, son péché. Donc bien sûr, si les conditions de repentir sont là, Allah Azzawajal, c'est Rahma et il pardonne à ses serviteurs. Donc on a dit fi haqq, c'est pour ça que les savants ont dit fi haqq al-adamiyin. Ils n'ont pas dit fi haqq al-muslimin. C'est « haqq al-adamiyin », donc par rapport aux êtres humains. « Adamiyin », tous les descendants de Adam, musulmans et koufa. Donc, à partir du moment où tu as volé quelque chose ou cassé par rapport à autrui, un tiers, qu'il soit kafir ou muslim, tu dois donc réparer ce tort par les voies qu'on a citées. Mais par rapport au riba, c'est autre chose. Le riba, c'est un tort entre toi et Allah Azza wa Jalla. Donc, par rapport à ce... Al-riba, tu parles. Non, al-riba, non, par rapport à al-riba. Ici, bien sûr, il faut, c'est plus la recherche, qu'est-ce que c'est le riba. Certains savants ont dit aussi, si la personne manifeste et se vante de sa désobéissance, qu'à ce moment-là, il n'a pas de riba. Les savants ont émis cette règle que, celui qui manifeste et qui se vante donc de sa désobéissance, que celui-là, ce n'est pas du riba, celui qui dit, il fait telle ou telle chose. Donc ça c'est plutôt dans le riba, et en général, ce qui apparaît, c'est que même le kafir, si c'est dans une chose, donc que tu l'as médit sur lui pour une chose qui, je veux dire, de sa vie privée ou autre, etc., que on doit demander donc de s'excuser auprès de lui. C'est ce qui apparaît, Wallah. Est-ce que c'est juste que quand on commet beaucoup de péchés, Dieu nous fait payer nos péchés d'abord sur terre? Wallah ala kulli hal. Tout ce qui arrive aux musulmans, c'est parce que ce qu'il a récolté de ses propres péchés. Ça, bien sûr, c'est un fondement qui est établi dans le Coran et dans la Sunna, c'est que ce qui touche la personne comme mal, c'est parce qu'il a récolté de ce qu'il a semé, de ses propres mains. Bien sûr, ici, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Il se peut que ce soit aussi un examen d'Allah Azza wa Jal par rapport à la personne. Il se peut que ce soit l'istidraj, par exemple, pour celui qu'Allah Azza wa Jal lui fournit encore plus de bien pour faire du mal, parce qu'il mérite cela, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Mais, par exemple, ce qui est connu, c'est que les châtiments qui sont liés à certaines désobéissances, ce châtiment-là efface le péché de la personne. Par exemple, quelqu'un qui a volé quelque chose, ou il a tué quelqu'un, et ensuite, par exemple, s'il est tué pour cela, cela efface le péché donc de la tuerie, du massacre, ou par exemple du vol. Ce had, donc cette punition, ce châtiment-là, fait faire de repentir pour cette action. Mais le reste, bien sûr, ça c'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Et on sait aussi que la règle, c'est celui qui rencontre Allah Azza wa Jal sans s'être repenti, il se peut qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne directement ses péchés. Yani bi rahmati, par sa miséricorde. Et il se peut aussi que Allah Azza wa Jal le purifie de ses péchés, car il ne rentre par lui que des gens purs de péché. Et ce fait qu'Allah le purifie de ses péchés par le châtiment, par sa grâce, par sa justice, qu'il le purifie de ses péchés en enfer. Et ensuite, bien sûr, celui qui est mort sur le tawhid, en étant wahid, un jour ou l'autre, comme on dit, il rentre au paradis, comme l'attestent les textes. Quand on commet des péchés et qu'on se repentit, par après, cela se peut que, quand on fera une doua, cela se retourne en mal. C'est que la doua, on en retire que du bien. Soit on récolte directement, Allah Azza wa Jal nous donne directement ce qu'on a demandé sur terre, soit il nous la garde pour l'akhira, soit on est récompensé soit Allah nous donne directement sur terre ce qu'on a demandé, soit ça repousse un mal équivalent au bien qu'on a demandé, soit Allah nous la garde, cette récompense pour l'au-delà. Donc le doua, surtout si la personne s'est repentie, ça ne peut pas se retourner en mal. Au contraire, le doua, on n'en retire que du bien. La base, c'est qu'il doit se débarrasser. Mais chacun, peut-être ça, il faut demander aux savants, peut-être selon les situations, la famille, dans lequel, etc. Mais la base, c'est qu'il doit se débarrasser de ce qui est haram le plus vite possible. Ça, c'est la règle de base. Maintenant, au cas par cas, ça, il faut demander aux savants, voilà, telle situation, telle famille, etc. Voir aussi quelle est la meilleure manière de s'en débarrasser pour que ça n'implique pas aussi de plus d'inconvénients, etc. Donc ça, demander au cas par cas aux savants. Mais la base, c'est que la personne, quand il a quelque chose de riba ou de haram en sa possession, il doit s'en débarrasser le plus vite possible. Ça, c'est la règle générale. Maintenant, au cas par cas, c'est mieux de demander aux savants, voilà, on est dans quelle situation, il nous reste autant à payer, ce qu'ils peuvent parfois y orienter pour que ça soit la plus rapide et la meilleure des manières. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana an yahdihi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.